l'école badinter de Tomblaine parleront dans ce micro du 19 mai au 26 mai pendant tout le festival de théâtre aux actes citoyens.
Émission en direct, interview, lecture, texte, musique vous feront vivre le festival de Tomblaine.
Venez nous retrouver à Jean Jaurès ou sur le site des Francas, franca-on-r.fr, radio aux actes des citoyens.
Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Mélisse. Vous écoutez en direct sur 98.8 FM en direct de Tomblaine, la radio des actes citoyens. Donc je suis en présence de Max et Jennifer.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Oui, ça va. Et toi ?
Ça va.
Et aujourd'hui, on va poser des questions à Alain Guyard.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous pouvez vous présenter un peu ?
Eh bien, je m'appelle Alain Guyard, je viens de Nîmes, j'ai traversé la France pour les yeux doux de Tomblaine. C'est pas la première année, c'est la troisième année, parce qu'à chaque fois c'est un enchantement et un ravissement. Et qu'est-ce que je viens y faire ? Je viens y faire des numéros de philosophie foraine. Et voilà, et ben, j'en ai fait trois, c'est le troisième, je suis épuisé mais ravi.
Tant mieux alors.
Eh ben oui.
Nous aussi. Hein.
On va vous poser quelques questions.
Bien sûr.
Alors déjà, comment vous choisissez vos titres ?
Eh bien, comment je choisis mes titres ? Eh bien, comment je choisis mes titres,
hein ? Comment ?
Eh bien, en fait, j'essaie qu'ils soient quand même marrants, parce que je fais de la philosophie, mais les gens toujours, ils se disent « Oh, la philosophie, c'est pénible, on va s'ennuyer, ça va être triste à mourir. » Alors moi, j'essaie de faire le contraire, c'est-à-dire j'essaie de trouver des titres qui sont bien rigoledingues, des fois avec un petit peu de cul, quoi, parce que les gens, un petit peu de sexe, quoi, parce que les gens, ils aiment bien, quoi, ça les attire, hein, tu vois bien. Et voilà, mais derrière le titre qui est rigolo, quand même, mine de rien, derrière, il y a de la référence, il y a du lourd.
Okay.
Et c'est pas difficile d'introduire de la philosophie dans un spectacle parce que vous faites un peu du comique en même temps.
Ah oui, tout à fait, t'as raison. C'est-à-dire que c'est à la fois de la philosophie et en même temps c'est du comique. Donc c'est un petit peu difficile parce qu'il faut faire tenir ensemble deux trucs dont tout le monde se dit que c'est incompatible, tu vois. Mm-hmm. Les gens, ils se disent la philosophie, c'est ennuyeux et les comiques, c'est superficiel. Et moi, j'essaie de dire le contraire. Il peut y avoir du comique qui est profond et puis il peut y avoir de la philosophie qui est drôle et qui est marrante. Mm-hmm. Donc j'essaie de faire tenir ensemble deux choses qu'habituellement on oppose.
Et comment vous avez eu l'idée de la philosophie en spectacle ?
Eh ben, écoute, il y a très, 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 très longtemps de ça, quasiment dans le siècle avant, il y a 15 ans de ça, en fait, j'avais une copine qui tenait un bistrot. Okay. Elle avait ouvert un bistrot, mais il y avait quasiment personne qui venait parce que avant, c'était pas un bistrot, c'était un salon de coiffure.
Okay.
Donc, c'est un peu compliqué quand même, tu vois. Elle se disait, mais comment je vais faire pour avoir une clientèle ? Et elle avait jamais fait de philo. Elle avait arrêté l'école à 12 ans. Ouh. Et un jour, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que la philo ? Ben, je lui ai dit, bah, t'as qu'à m'inviter chez moi, chez toi, tu vas me faire un bon petit repas, tu vas me sortir 3-4 bouteilles, je vais te raconter ça, tu vois. Je commence à lui raconter, elle trouve ça marrant, elle dit, ah tiens, bah, reviens, on rouvre des bouteilles et puis tu continues de raconter l'histoire. Alors je lui raconte la philo 2-3 fois, à chaque fois elle invite des copains de plus en plus.
Okay.
Et à un moment, on était chez elle et on était, je sais pas, 25-30. Okay. Et moi je faisais l'andouille chez elle, sur une soirée. Puis à un moment elle dit, mais je suis conne. Parce que si je faisais la même chose avec toi, mais si je faisais dans mon bistrot, ça faisait venir du monde. Mmh. Je lui ai dit, bah, vas-y. Et donc, on a fait ça chez elle. Et en fait, une fois par mois, dans son bistrot, je faisais des numéros de philo, comme j'en ai fait ici à Tomblaine, dans un bar, tu vois. Okay. Et je l'ai fait pendant 6 ans, tous les mois.
Mmh.
Et c'est comme ça que j'ai appris à faire le comique, mais en même temps à faire de la philosophie, pour un public qui ne s'y attend pas, dans un lieu où on ne s'y attend pas.
Okay.
Et c'est évident de faire ça, de faire en comique ?
C'est pas évident. Mine de rien, tu vois, comme ça, je fais mon fier à bras et tout, je roule des mécaniques.
Ouais.
Mais mine de rien, c'est du boulot, puis c'est du tracas, tu vois.
Okay.
Faut quand même bien préparer le truc. Si tu veux, le secret, c'est donner l'illusion que c'est facile.
Okay.
Et
ouais.
En fait, pour donner l'illusion que c'est facile, en fait, faut vachement de boulot, tu vois.
Ouais.
Faut que toi, tu donnes l'impression d'être super décontracté, puis donner l'impression que t'improvises.
Mm-hmm.
Mais pour donner l'impression que t'improvises, faut que t'improvises rien.
Okay.
Et puis que t'aies vraiment, vraiment, vraiment bossé en amont, tu vois.
Ouais.
Et pourquoi vous avez choisi la philosophie et pas un autre thème.
Eh ben parce que en fait moi quand j'ai fini mes études, tu vois, quand j'étais en terminale, j'étais au lycée, Moi, je savais pas trop quoi faire. Je suis comme tout le monde, tu vois, à 17 ans. Tu te dis, les gens, ils te disent, oh, il faut trouver un métier, faut être vendeur de moquettes à Leroy Merlin et tout. Moi, je dis, mais je n'ai pas, qu'est-ce que je vais faire, vendre des moquettes à Leroy Merlin? Et puis, quand je suis arrivé en terminale, j'ai rencontré la philosophie, j'ai rencontré mon prof de philo. Puis, j'ai trouvé ça génial, quoi, de faire de la philo. Alors, j'avais fait un bac éco, tu vois, pour faire comme BTS Force de Vente. Puis, j'ai arrêté, puis je dis, mais je vais faire de la philo, moi, je vais aller à la fac. Je vais aller à l'université, puis je vais faire de la philo. Okay. Et j'ai fait de la philo le plus longtemps possible, parce que je ne voulais pas aller travailler. Parce que ça va 5 minutes, aller bosser, c'est une horreur. Hein.
Ouais.
Et donc j'ai fait ça pendant 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai fait des études. J'ai fait le doctorat. Et puis, depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc tu vois, j'ai commencé la philo à 17 ans. Maintenant, j'en ai un petit peu plus. Tu as vu un peu, j'ai des poils blancs partout sur ma gueule. Hein.
Ah ouais.
Tu vois. Mais j'ai jamais arrêté la philosophie. J'aime trop ça. C'est trop bien.
Et vous avez trouvé votre voix?
Comment?
Vous avez trouvé votre voix, comme on dit?
Ouais, je crois que j'ai trouvé ma voix. Ouais, c'est ça. Ouais.
Votre voix avec V-O-I-E, mais votre voix aussi,
V-O-X. T'as raison, t'as bien raison, parce que c'est les deux. Parce que ce que j'aime bien dans la philosophie aussi, c'est la beugler à tue-tête.
Bah voilà.
Dans les bistrots, dans les salles des fêtes, dans les festivals. Et j'aime bien aussi, comme ça, tu vois, faire... comme si j'étais, tu sais, dans les fêtes foraines. Tu sais, les mecs, ils ont le micro, puis ils attirent les gens pour aller faire le grand 8 et tout. Tu
ouais,
vois
totalement.
Alors moi, j'aime bien faire un peu ça, tu vois, où les mecs, ils vendent des pommes d'amour et puis de la barbe à papa.
Bah ouais.
Et ben moi, je vends des concepts et de la philo. Mais c'est un peu de la même manière, on ouvre en grand ma gueule, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et ça fait combien de temps que vous faites des spectacles par rapport à la philosophie?
Ça fait 15 ans.
Ouh. Ouais,
tu vois, donc je commence à... Ça fait 15 ans, mais ça fait 4 ans que je l'ai fait de manière sérieuse, avec une boîte de production et en tournant dans les festivals de manière très, très, très solide, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il m'a fallu 10 ans pour apprendre le métier sur le terrain, tu vois. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas évident d'être à la fois comique et puis donner de la matière à penser.
Oui.
Donc moi, j'ai pas du génie, hein, je suis pas génial, mais j'ai bossé pendant 10 ans pour apprendre, pour essayer de comprendre comment ça se passait. Puis quand j'ai compris, bah, j'ai commencé à me produire sur scène.
Okay. Mais est-ce que vous avez encore le trac quand vous montez sur scène ou
Moi, j'ai jamais le trac.
Ah, okay.
J'ai jamais le trac parce que les gens qui ont le trac, c'est des gens qui sont vraiment des gens qui ont du talent, qui sont des comédiens, qui répètent un texte, qui l'ont appris par cœur, qui ont appris par cœur des déplacements. Mm-hmm. Et moi, je suis pas comédien, tu vois.
Ouais.
Je viens pas de ce métier-là.
Okay.
Je travaille beaucoup sur l'improvisation par rapport à ce que je sens du public.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pas le trac. Okay. J'ai pas le trac du tout. Okay. J'ai pas le trac. Je
sais pas ce que c'est. Mais avant, vous étiez timide.
Jamais. Moi, j'ai toujours été une grande gueule. Tu vois. Le plus dur pour moi, c'est me réussir à me faire taire. Okay. Donc, et moi, si je me rencontrais dans un bistrot, je m'énerverais et je voudrais me casser ma gueule. Trop, je l'ai toujours ouverte. Donc, j'ai pas le trac et puis je suis pas timide. Non, non.
Et du coup, dans vos spectacles, vous faisiez référence à votre carrière à l'éducation nationale. Et justement, pourquoi vous l'avez quitté à l'éducation nationale?
Bah, moi, j'ai toujours adoré les élèves. J'ai toujours vraiment aimé adorer professionnellement, je dirais.
Oui, il n'y a pas de souci.
J'aime vraiment beaucoup enseigner, quoi. Tu vois, j'adore transmettre. Et puis, moi, j'adore les jeunes, quoi. C'est vrai que c'est vraiment joli parce que, tu sais, des fois, les gens, ils bossent, ils ont une vie de famille et tout. Puis c'est dur, la vie, tu sais, pour les gens qui travaillent, qu'il faut qu'ils tirent de la thune pour nourrir leurs enfants et tout.
Mmh.
Et c'est épuisant, tu vois.
Ouais.
Et qu'un jeune, bah, il a encore sa fraîcheur, il a encore son énergie.
Mmh.
Et moi, cette fraîcheur et puis cette énergie, puis cette curiosité des jeunes, je l'ai toujours beaucoup aimé. Et donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup enseigné. Mais, tu vois, il y a 15 ans, en fait... j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, j'ai commencé à écrire des romans, puis j'ai commencé à tourner dans les prisons, beaucoup aussi, pour faire de la philosophie avec les détenus.
Okay.
Et puis mes romans, mes pièces de théâtre, ils ont beaucoup marché.
Okay.
Et puis faire de la philosophie avec les adultes en prison, j'ai trouvé ça formidable aussi.
Okay.
Et je me suis dit, à un moment, tu peux pas tout faire,
oui.
Et puis tu peux pas aller bosser au lycée, et puis après travailler la nuit à écrire tes romans, parce que tu vas mal faire. Tu veux mal faire tes romans, puis tu vas pas rendre service aux gamins quand tu vas les reprendre le lendemain matin à 8h avec la tête dans le cul puis les yeux en couille d'hirondelle. Donc je me suis dit, il faut que tu arrêtes, quoi. Donc j'ai arrêté d'enseigner et je me suis consacré à la philosophie de manière autrement.
Okay.
Voilà.
Et vous êtes resté combien de temps à l'éducation nationale ?
J'ai commencé à enseigner quand j'avais 20 ans.
Ouh, ouais.
Tu vois, j'ai commencé tout jeune. Hein. Mmh. J'ai commencé quand j'avais une licence de philosophie pour avoir 3 sous. Mmh. J'étais remplaçant quand il y avait des profs qui étaient malades ou qui étaient enceintes. C'est moi qui les remplaçais. Ouais. Et puis, pendant les 12 ans où j'ai fait mes études de philosophie, pour me les payer, en fait, je faisais le prof remplaçant.
Okay.
Et puis ensuite, j'ai fait le prof à temps plein.
Ouais.
Donc, j'ai enseigné pendant 20 ans comme ça. Enfin, j'enseignais pendant, pour être très précis, 16 ans comme ça. Puis après, pendant 4 ans à mi-temps. La moitié de l'année, j'étais prof en lycée. Puis l'autre moitié, je faisais mes couillonnades là, dans les festivals. J'écrivais mes bouquins et tout ça. Quoi.
Mais justement, quel est votre regard, quand vous avez été enseignant, quel est votre regard aujourd'hui sur l'éducation, sur la manière dont la philosophie est transmise à l'école ?
Bah, écoute, tu vois, ça fait quand même 10 ans que je ne suis plus dans les tuyaux. Donc j'ai un peu du mal à savoir ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, je trouvais que la philosophie, comme elle était enseignée par mes collègues et par moi-même, enfin, c'était quand même bien parce que si tu veux, c'est quoi finalement faire des cours de philo quand tu es en terminale ? C'est pas assommer les élèves avec des tas de références et puis des tas de bouquins. Mmh. En fait, quand tu es en terminale avec des élèves, il faut que tu donnes envie à des mômes de 17 ans de penser par eux-mêmes.
Ok, ouais.
Tu vois ?
Oui, oui.
Et quand tu as 17 ans, bah, généralement, tes idées, c'est les idées de tes parents, mmh, tu vois,
oui.
Par rapport à la politique ou par rapport à la religion, tu refais comme tes parents y font.
Oui.
Mais en même temps, tu as 17 ans, tu as envie un petit peu d'être punk, tu as envie de te faire pousser ta crête et puis de dire merde à l'héritage, tu vois.
Mmh.
Et la philosophie, elle te dit, bah, écoute, plutôt que d'être un rebelle en cassant des vitrines, tu peux faire le rebelle en interrogeant l'héritage,
okay,
et puis en choisissant ta pensée.
Okay.
En te contentant pas de suivre le modèle de tes parents, tu peux le faire quand t'es petit, mais tu vas devenir adulte. Et maintenant, comme t'es adulte, tu vas choisir ta vie, tu vas choisir ton travail. Mais le plus important, c'est choisir tes pensées, choisir ta vision du monde. Et c'est ça qu'on fait en philosophie en terminale.
Okay.
Et en général, c'est quand même vachement sympa, quoi.
Ok. Ouais.
Et du coup, est-ce que c'est facile de faire de l'improvisation sur scène, en spectacle ?
Ben, en fait. C'est vachement ton axe du slip quand même, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, j'improvise en gros pendant une heure avec devant la salle. Mais en fait, les gens, ils ont l'impression que j'improvise. Mais moi, j'ai un canevas qui est très précis. Avec là, par exemple, j'ai calculé pour un numéro que j'ai joué il y a pas si longtemps. Mm-hmm. Dans mon canevas, j'ai même jusqu'à 20-30 étapes.
Ok.
Tu vois, je les ai dans ma tête. Et selon ce que je sens du public, des fois j'en passe, des fois j'en retire.
Okay.
Donc grosso modo, si tu veux, j'arrive à un truc où j'ai une improvisation avec 15 à 30 points, okay, qui sont des trucs qu'il faut que je balance.
Okay.
Tu vois, donc c'est quand même très serré, très calculé, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit lourd. Et il faut que les gens ils aient l'impression que j'improvise et que je pars en sucette. Mais en fait, je ne pars pas en sucette.
Et du coup, vous écrivez vos spectacles tout seul ou vous êtes quand même aidé par votre équipe qui est derrière vous ?
Non, moi, comme tu dis, je les écris, mais c'est un petit peu comme une commedia dell'arte, tu vois ? Mmh. C'est-à-dire, j'ai mes 15, 20, 30 points, donc je sais comment je vais me déplacer intellectuellement. Mmh. Mais après, tu vois, j'ai mon régisseur qui est au fond, c'est lui qui met les lumières, mmh, c'est lui qui des fois chante des couillonnades, ouais, et tout ça. Mmh. C'est lui aussi qui m'installe le décor au début. Mmh. Et en fait, c'est vachement important parce que dès que j'en finis une, en fait, on fait un débriefing ensemble.
Okay.
Et puis, il m'explique à quel moment, tu vois, j'ai réussi à construire une vraie intimité.
Okay.
À quel moment j'étais dans la grosse déconne. À quel,
ouais,
moment j'étais dans l'intimité,
oui,
dans la complicité très respectueuse, mmh, tu vois. Et c'est ce dosage qui est un dosage à la fois intellectuel et émotif, mmh, qui est le résultat d'un travail collectif avec mon régisseur.
D'accord. Mmh. Et est-ce que vous inspirez de quelque chose en particulier pour faire vos spectacles ou pour créer votre spectacle ?
Moi, je me nourris toujours des grands philosophes.
Okay.
Parce que tu sais, c'est intimidant, un grand philosophe. Déjà, c'est dur à lire. Hein. On n'arrive, mmh, pas à lire un philosophe tout seul. Il faut dire la vérité, quoi. Mais en fait, quand tu arrives à le lire... Alors moi, j'arrive à le lire parce que j'ai fait ça pendant 12 ans quand j'étais à la fac, si, mmh, tu veux. Mais quand tu arrives à bien lire un philosophe, en fait, de quoi il te parle ? Bah, il te parle de ta vie, tu vois. Par exemple, un philosophe comme Kant, mm-hmm. ben, il t'aide à comprendre ce que c'est qu'agir en étant, en faisant ton devoir.
Okay.
Ou quand est-ce que, en fait, tu as l'impression de faire ton devoir, mais en fait, tu es un hypocrite. Mm-hmm. Ou par exemple, Marx, il va t'aider à comprendre ce qui se passe quand tu vas travailler et puis que tu reviens à la fin de la journée, puis tu as l'impression d'avoir une relation de merde avec ton patron, tu vois. Et en fait, si tu veux, les philosophes, tout le monde s'imagine que c'est des gens qui sont dans la lune puis qui n'ont pas les pieds sur terre, mais ce n'est pas vrai, en fait. Les philosophes, c'est les gens les plus réalistes. Ils réfléchissent sur le réel. Okay. Et moi, quand je fais mes numéros de philo, ma préoccupation, en fait, si tu veux, par rapport à ta question, c'est de qui je m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire ? C'est les philosophes, parce que les philosophes, en fait, ils sont très inspirés par la vie et par la réalité.
Okay. Et vous mettez combien de temps à préparer votre spectacle, à le retenir
Eh bien, pour écrire un numéro, il me faut 2 mois pendant lesquels je le médite, tu vois. Il me faut 2 semaines pendant lesquelles je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Il me faut 2 jours pour l'écrire. Et il me faut 2 heures avant le spectacle où je pense qu'à ça.
Parce que ça doit pas être évident de retenir le texte comme ça.
Ouais, ouais.
Surtout que ça dure 1 heure, 1 heure et demie votre spectacle. Donc,
ça dure une heure, mais si tu veux, c'est pas un texte que j'apprends par cœur, tu vois. Okay. J'ai mes étapes un peu comme Comédia dell'Arte. J'ai 15, 20, 30 étapes. Okay. Donc ça, il faut vraiment que je les apprenne par cœur. Mm-hmm. Des fois, c'est des étapes avec des mots-clés ou des démonstrations ou des exemples. Mais des fois, c'est des étapes émotives. C'est-à-dire, comment je vais faire pour construire une relation émotive avec mon public, tu vois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, c'est du boulot.
Mais est-ce que vous considérez comme quoi, comme un philosophe, un enseignant ou comme un comédien?
Non, moi, je suis un battleur de fêtes foraines. Et c'est la vérité, c'est-à-dire que ce que je reprends, les codes, la manière que je parle, comment je déconne avec le public, que je raconte mes conneries, que je fais le fier à bras et tout ça. Tu sais, quand tu vas des fois sur les fêtes foraines, t'as les mecs qui vendent de l'électroménager, des aspirateurs ou des balayettes, des serpillères révolutionnaires qui viennent d'Amérique et tout. Et c'est incroyable, les mecs, ils ont un boniment dément, tu vois. Et moi, je m'inspire de ça, je m'inspire des bonimenteurs qui vagabondent de fête foraine en fête foraine. Qui sont comme ça, très près du peuple, qui déconnent avec les petites gens. Sauf que moi, je ne vends pas des aspirateurs et puis des serpillères. Moi, ce que je vends, c'est des concepts. Ce que je vends, c'est des idées grâce à quoi les gens, ils peuvent arriver à peut-être à mieux comprendre ce qui leur arrive dans la réalité. Tu vois. Voilà. Donc, c'est pas des aspirateurs, mais c'est des balayettes. Et puis, c'est pas des balayettes non plus, c'est des concepts.
Mais est-ce qu'il n'y a pas du vécu aussi dans ce que vous transmettez?
Si. Parce que si j'arrive à parler de tout ça, puis si j'arrive à, comment dire, être en rapport avec le réel, c'est parce que très souvent, au moins une fois par semaine, je descends auprès des gens qui sont très marginalisés, puis qui ont des conditions de vie très difficiles. Je descends en prison, je descends en hôpital psychiatrique, je descends à l'hôpital, je descends dans les soins palliatifs, je descends dans les centres d'hébergement d'urgence où il y a des immigrés sans papier. Et je travaille avec les professionnels, je travaille avec les usagers, tu vois. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est ma pratique au quotidien, ça. Et c'est de ça que je me nourris pour faire mes numéros, tu vois, pour que les gens se rendent compte qu'effectivement, on ne s'amuse pas à parler un petit peu comme ça, la tête en l'air et la gueule dans les étoiles, mais on essaie de parler de choses concrètes, on essaie de parler du réel.
Mais est-ce que vous n'aimeriez pas aussi plus tard que quelqu'un d'autre reprenne après vous le flambeau justement, le
Alors si, depuis 2-3 ans, j'avais essayé de former des jeunes gens, parce que moi ce que j'aimerais bien, c'est que ce que j'arrive un petit peu à faire maintenant depuis 15 ans, il puisse y avoir d'autres jeunes gens qui arrivent à le faire. Alors, il y avait 2 jeunes gens qui étaient partants pour l'histoire. Peut-être que ça va donner quelque chose, mais ta remarque, elle est intéressante, c'est vrai que j'aimerais bien transmettre maintenant que j'arrive à peu près.
Et...
Les filles, si vous voulez, on peut y aller.
Et pourquoi à chaque fois vous revenez au Festival des Actes Sociaux?
Ça, faut pas me demander à moi, faut me demander à ceux qui le programment. Mais si tu veux, la première année, le premier jour, il y avait 40 personnes. Et puis chaque jour, tu en avais 10 de plus. Puis tu vois, c'est la troisième année. Première année, on a démarré à 40. La dernière année, tu as vu, là, la salle était pleine. Je pense qu'on devait être 200, quelque chose comme ça, je crois, tu vois.
Et en général, vous produisiez combien de fois par semaine, chaque année ?
Alors moi, je fais vachement attention à essayer de travailler le moins possible.
Ok.
Hein, parce que je sais pas si tu sais, mais le travail, c'est pas bon pour la santé.
Ah ouais.
D'ailleurs, il y a... Ça, y a une médecine du travail, mais il n'y a pas une médecine du loisir. Hein,
ah, c'est,
avis,
dommage,
hein,
c'est dommage,
hein, ouais. Tu vois. Donc en fait, pour répondre à ta question, des numéros comme par exemple ceux que j'ai fait ici à Tomblaine, j'en fais 30 dans l'année.
Okay. C'est
pas beaucoup. Et puis j'essaie, quand je descends en prison, quand je descends en hôpital psychiatrique, j'essaie de en général c'est une fois par semaine.
Okay.
Une ou deux fois par semaine, pas plus. Et le reste du temps, en fait, je le consacre à la lecture, à la rêverie, à l'écriture. Tu vois, un rapport où je prends beaucoup de distance, où je travaille pas, je rêvasse, je bouquine, je mets en terrasse. Tu vois, comme ça, je prends les choses avec philosophie. Tu vois.
Donc du coup, vous faites que ça, entre guillemets, dans votre vie. Enfin,
ouais.
Vous ne travaillez pas.
Non, j'ai évité cette horreur.
C'est bien. Je prends l'exemple.
Oui,
vous,
tu as raison. Je le conseille, tu verras, c'est très agréable.
Ah, j'en doute pas.
Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu un retour du public par rapport à vos différentes interventions? Est-ce que vous pensez vraiment que s'il y a un divorce avec la philosophie ou les personnes encore, il y a vraiment une demande?
Ah oui, mais ta question, elle est vachement importante. Déjà, si tu veux, moi, comme je construis mes numéros, si tu veux, ce qui est très important pour moi, c'est que je laisse vraiment beaucoup la parole au public.
Okay.
Tu vois, par exemple, quand j'interviens une heure. Mm-hmm. Après, je débat avec la salle pendant une demi-heure, puis après on boit un petit coup dehors, et ça dure vachement longtemps, t'as bien vu hier, on s'est donné rendez-vous, et en fait,
totalement.
Tu vois, ça a duré quasiment une heure et demie dehors avec les gens qui continuaient à tricoter avec les couillonnades que j'ai racontées.
Ouais.
Donc si tu veux, par rapport à ta question, est-ce que ce que je raconte, ça fait que les gens, ils sont réconciliés avec la philosophie, ou est-ce qu'ils en divorcent? Moi, je pense que ça les réconcilie parce qu'ils ont beaucoup d'appétit pour continuer la conversation, tu vois. Et puis ce que je constate aussi, c'est quand je reviens sur un lieu à plusieurs reprises, comme par exemple à Tomblaine, les gens y reviennent me voir, et peu à peu ils sont de plus en plus familiers avec la réflexion et la pratique philosophique.
Ouais.
Et vraiment, ils pensent de mieux en mieux les choses. C'est comme par exemple, tu vois, t'as un mec dans un club sportif qui vient faire, tu vois, c'est un mec, il est pro, je sais pas, de tennis, puis il vient trois fois dans l'année faire un petit stage de tennis, et ben il verra les gens progresser. Et ben moi, je vois vraiment ça aussi, tu vois.
Okay.
Vous avez d'autres choses à rajouter?
Non. Je crois qu'on a fait le tour.
Bah moi, je peux rajouter que je suis vachement content d'avoir discuté avec vous.
Ah ben nous aussi.
Oui,
nous
aussi.
C'était des questions qui étaient super.
Oui, mais juste pour terminer une question.
Voir.
Est-ce que vous avez un support de vos différentes interventions?
Alors, tu sais, ce que je m'amuse à faire, c'est distribuer ce que j'appelle un petit livret, où je fais des petits dessins croquignoles, voire des fois un petit peu cochon quand même, tu vois. Et puis il y a des textes des auteurs, des philosophes. Alors, comme c'est un petit papier qui est rigolo, qui est plié en quatre, il peut se foutre dans la boîte à gants, il peut être oublié par-ci par-là. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que les gens, ils peuvent repartir avec ce support qui est un petit papier, qui est tout ordinaire. Donc ça veut dire que la philosophie, elle ne devient pas un objet sacré, tu vois, qui est intimidant. Et ça, c'est le premier support. Et puis le deuxième support, c'est qu'en fait, à partir de cette année, maintenant, les textes que je fais, je les écris. Et puis, ce sera sous forme de tout petits bouquins, qui peuvent se glisser dans une petite poche, dans une petite boîte à gants, comme ça. Et ça, je commencerai à les éditer au mois de juillet. Donc, on pourra les avoir. C'est des tout petits bouquins qui sont gros comme une petite boîte d'allumettes, puis qui font 32 pages, avec à côté les petits dessins cochons. Qui font rire les obsédés du cul.
Oups.
Peut-être c'est des gros mots, j'ai pas le droit de les dire à la radio, hein, merde. Hein. Je suis désolé. Hein.
Trop tard.
Trop tard.
Je crois que c'est bon pour ma part. Je crois que c'est...
Moi aussi, c'est bon.
Vous aussi?
Ah ben moi, c'était délicieux.
Merci à vous.
Mais merci infiniment.
Merci
beaucoup de votre accueil, et puis merci de vos questions qui étaient super.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.